Patrick qui travaille non seulement comme chef de service de médecine légale à l'hôpital Jean Verdier à Bondy, mais qui est aussi chercheur à l'école des hautes études en sciences sociales, Paris 13, à l'IRIS, qui est l'UMR dans laquelle je travaille aussi. Donc on est collègues et Patrick travaille comme praticien hospitalier, comme professeur de médecine et comme chercheur à l'IRIS. Voilà pourquoi il a pu participer à cette... On l'a invité à participer à nos débats.
Donc effectivement, je suis médecin légiste, mais je ne vais pas vous parler beaucoup de morts. Tant pis. Ben ouais. Donc en fait, l'idée, c'est de voir en quoi la médecine pourrait servir à quelque chose pour étudier la violence dans le punk. Ça va pas de soi, c'est-à-dire que le médecin apprécie la violence avec un point d'interrogation. Habituellement, non, il s'en fiche complètement de la violence. Donc il va pas apprécier la violence, éventuellement il va apprécier des conséquences de la violence et des conséquences qui sont pas spécifiques. C'est-à-dire que le chirurgien, il y a un truc qui est cassé, il va réparer, mais qu'on soit tombé de la table, qu'on ait glissé sur une peau de banane ou qu'on ait reçu un coup avec quelque chose... Pour le chirurgien, ce n'est pas tellement différent. Qu'on se soit coupé en ouvrant des huîtres ou en ayant reçu un coup de couteau, bah aux urgences, on va suturer. Et puis, il apparaîtra pas forcément quelque part qu'il y a une différence. Donc, on va réparer le chirurgien, l'urgentiste, il va réparer des blessures. Et puis, il y a des... on va dire blessure de l'âme. Donc quand ça va pas, psychiquement, les psychiatres, les médecins généralistes, pour ne parler que de médecins, alors il y en a plein d'autres qui peuvent s'en occuper, ils vont éventuellement prendre soin de psychotraumatisme. Mais le lien entre psychotraumatisme et violence, surtout si on parle de violence volontaire, il est évidemment pas direct. Et puis les psychotraumatismes, ils peuvent être par exemple dus à des catastrophes naturelles, à des événements de vie qui n'ont rien à voir avec la violence, comme la perte d'un proche. Et donc, en soi, il ne va pas y avoir une approche spécifique ou un intérêt particulier, habituellement, pour le phénomène de la violence chez les médecins, quel qu'il soit, avec une exception qui est le médecin légiste, la médecine légale. Mais c'est une exception un peu bizarre, dont je vais vous parler un peu. Parce que la place de la médecine légale dans la médecine est un peu à part. Donc, si on veut faire... il y a un certain nombre de médecins légistes qui aiment bien se définir ou définir leur discipline comme la médecine des situations de violence. C'est un moyen de regrouper un certain nombre d'activités que font les médecins légistes. Alors, la vision judiciaire, vision un peu collabo, c'est la médecine légale vue comme médecine au service de la justice. Donc la justice se pose des questions, elle demande à des médecins, des auxiliaires techniques, de répondre ce qu'ils ont envie d'entendre. Donc il y a des médecins légistes qui sont très contents, qui se satisfont de cette situation d'auxiliaire de justice et qui considèrent qu'ils ne sont pas vraiment ou pas très accessoirement médecins, mais avant tout auxiliaires de justice. Donc on leur pose une question, ils se disent qu'ils doivent y répondre. C'est pas le sujet, mais c'est important pour beaucoup de médecins légistes. Il y a une vision centriste, c'est soit le pont, soit le cul entre deux chaises. Disant la médecine légale, le pont entre la médecine et le droit, ça peut être aussi nulle part, donc ni de la médecine ni du droit, entre les deux, au milieu, sous le pont, ou alors vraiment un pont. Et puis, puisque là, déjà, quand je suis arrivé ce matin, on m'a dit « Ah ben, on va entendre parler de mort », je précise que le médecin légiste est vu par tout le monde, y compris les médecins, comme médecin des morts, mais que l'activité thanatologique, c'est-à-dire les autopsies, les examens de personnes décédées, ça représente à peu près 5% des actes de médecine légale. Donc le reste, bah, c'est des gens pas morts, c'est-à-dire vivants, ou à peu près. C'est surtout ça dont je vais vous parler. Je dirai un mot des morts, mais c'est pas tellement plus qu'un mot. Alors, donc, médecine légale, déjà, pour revenir, mais, bon, c'est aussi pour montrer qu'on est en équilibre instable quand on fait de la médecine légale. Si on est en équilibre stable, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'habituellement, on est du côté de la police. Donc, il y a des conflits d'intérêts, des confrontations d'univers qui sont quotidiens dans l'exercice de la médecine légale. Ça, c'est pas le sujet, c'est pas le punk, on va y venir, mais c'est qu'on est habitué à être en déséquilibre quand on fait de la médecine légale, avec d'un côté un univers médical, du diagnostic, du soin. On essaye de faire des choses qui sont basées sur des faits prouvés, pas de se lancer sur des trucs au hasard. Et on va pas faire d'examen s'il n'y a pas un intérêt pour faire un diagnostic ou un traitement. Et puis il y a un univers judiciaire qui n'est pas du tout concerné par ces problèmes-là, où ce qu'on veut, c'est avoir des preuves. Donc ça peut avoir un intérêt là, pour, en matière de punk. Et encore, on va venir après. Donc l'idée pour la justice, c'est de sanctionner un auteur ou de réparer les dommages qu'a subi une victime. Alors, le médecin légiste, je vous dis, il s'occupe de la violence. Ben, comment il va faire? Ce qui est simple... On arrive du sang et des larmes, c'est pas juste pour faire un mot. Du sang, quand il y a du sang, c'est simple. Pour aller largement, compter les bleus, c'est facile. N'importe quel médecin légiste peut compter les bleus. Soit en comptant, en s'aidant avec ses mains, soit en prenant des mesures, ce qu'on veut. Donc, quand ça saigne, c'est assez facile. Quand il y a des larmes, ça devient plus compliqué. Évaluer un état psychique, évaluer une gêne fonctionnelle... Déjà, il y a certains médecins légistes ou d'autres qui disent « je ne suis pas psychiatre, donc je ne m'occupe pas du psychique ». Ça peut sembler bizarre, mais c'est comme ça. Donc, ils ne veulent pas voir. Et puis les larmes, il faut encore qu'elles soient vues et il faut encore qu'elles soient montrées. Et qu'elles soient montrées devant celui qui pourrait les évaluer. Donc, il y a un problème quand on dit « le médecin légiste peut s'occuper des violences ou de leur suite », c'est qu'il va s'en occuper pour autant qu'il les voit. Pour autant qu'ils rencontrent les personnes qui ont subi les violences. Et puis la rencontre, ça ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer quelqu'un et puis il ne se passe rien. On dit bonjour, je m'en vais. Il faut en parler. C'est-à-dire qu'on peut avoir subi des violences, rencontrer un médecin, rencontrer un policier, un magistrat, qui on veut, des amis ou pas. Et puis il faut accepter ou être prêt à en parler devant la personne qu'on a en face de soi. Et puis il faut ensuite que la personne qu'on rencontre, à qui on va parler de ce qui s'est passé, qualifie l'événement de violent. Il faut que la personne qui a subi les violences qualifie cet acte de violent, et il faut que le récepteur qualifie aussi l'épisode de violent. Il faut éventuellement qu'il porte plainte. Ça ne va absolument pas de soi, tout ça. Hein. On peut parler une heure de chaque mot. Il y a énormément de situations de violence qui ne donnent pas lieu, qui n'ont pas de suite, donc qui ne vont pas donner de traces, puisque là, l'idée, c'est de partir sur un programme de recherche. Donc comment on va choper les traces de violence, la violence chez les punks? Bon, pour ça, il faut qu'il y ait des traces, et il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de lire les traces et qui aient envie de le faire. Est-ce qu'on est loin des concerts punks? Pas forcément, mais on s'approche. Donc... on va dire apprécier la violence dans le punk, on laisse un peu de côté la médecine légale. Si c'est aux urgences, bon, déjà faut que ça saigne ou que ce soit cassé, sinon on va jamais aller aux urgences. On reçoit un coup de poing et puis on est juste un peu rouge, il viendra l'idée de personne d'aller aux urgences, même un punk ou surtout un punk, donc il va pas y aller, donc l'urgentiste ne le verra pas. Pourtant il y a eu des violences. Chez le psy, alors c'est encore pire. Donc déjà on n'est pas bien à la suite de violences, et en plus, il faudrait aller en parler à un psy. Et en plus, quand on est punk, vous imaginez, bon. Donc c'est très difficile. Et c'est pas pour autant que les violences n'ont pas existé, qu'elles n'ont pas des suites dramatiques. Mais où vont être les traces, à part chez celui qui les a subies, ou son entourage, etc. Mais en tout cas, pour faire une recherche là-dessus, pour identifier ces traces, pas simple. Donc, il y a une question de reconnaissance, il y a une question de visibilité. Tout ça, ça va pas de soi. Donc, là, j'y reviens, il faut que la violence soit reconnue comme telle ou au contraire méconnue, genre même pas mal, ou alors, ah oui, j'ai mal, donc celui qui l'a subi, celui qui l'inflige aussi. Non, non, je t'ai pas touché. Bon, ou c'était un jeu. Ben, c'était un jeu pour qui ? Pour moi, qui était l'auteur des violences, ou pour celui qui dit, bah ouais, mais moi je jouais pas. Bon, faut que ça soit éventuellement reconnu par les tiers. Donc ça peut être les semblables, les autres punks, maintenant t'as rien eu, fais pas ta chochotte, bon, pleure pas. Donc, bah non, ah bah si on me dit que j'ai pas le droit de pleurer, ou que j'ai pas le droit d'avoir mal, ou j'ai pas le droit de dire que j'ai subi des violences, ça va pas être facile d'en parler. Il y a l'environnement familial, ou l'environnement amical, tu l'as bien cherché. Ah, bon bah si je l'ai bien cherché, peut-être, ça commence mal, je vais peut-être pas en parler. Au mieux que je la ferme. Donc si je la ferme, qu'est-ce qui va pouvoir compter les violences ? Qu'est-ce qui va pouvoir étudier les violences que j'ai subies ? Si je peux, même moi, je ne m'autorise pas à en parler, parce que, ou notamment parce que mon entourage m'a dit non, non, t'as que ce que tu mérites. Donc les témoins, alors les soignants, c'est pas parce qu'on est soignant qu'on est attentif à ce qu'on voit. La police, la justice, tout ça, ça peut être la même chose, c'est-à-dire, ah ben il y a la bande de punks qui se sont foutus sur la gueule, c'est normal, donc il ne s'est rien passé. D'abord, ils jouent, de toute façon, ces gens-là, ils sont violents, donc on ne va pas vraiment s'en préoccuper. C'est pas de la vraie violence. La vraie violence, ça va être celui qui a son costard, et là, qui a reçu un coup de... Et on ne s'attend pas à ce qu'il ait reçu le coup de poing. Donc ça, c'est un vrai coup de poing. Mais le coup de poing entre deux types dont on s'attend à ce qu'ils se foutent sur la gueule, on se dit, ah ben non, ils jouent. C'est peut-être leur coutume. Donc ça va être difficile de les identifier. Et que ce soit aux urgences ou ailleurs. Alors si en plus il y a de l'alcool, bah, là, de l'alcool ou des produits, on va y revenir, mais c'est encore pire. Bah, ils étaient bourrés, ils se sont tapés sur la gueule, c'est normal. Il ne s'est rien passé. S'il y a une suture, si on va faire. S'il y a une vraie plaie, on va suturer, on va dire, bon, vous bougez pas, monsieur, et on suture. Et puis après, on n'en parle plus. Alors, on arrive au punk. Alors, la violence, elle peut être donnée en spectacle. Ah ben ça oui, ça, on regarde dans les journaux, les machins. Il peut y avoir des images. Ah, du sang. Alors des images qui vont être posées, le sang partout ou pas, ou subies, c'est-à-dire, ah ben là, il y a un photographe qui va voler des images non souhaitées par ceux qui ont le sang sur le visage. Et donc, c'est deux genres d'images. Après, il y a des clichés du genre groupe de variété, c'est-à-dire les Taxi Girl qui montrent, là, le chanteur qui monte sur scène avec son nez cassé et plâtré. Donc, ah bah, vous rendez compte, moi, je suis un dur, je chante quand même, alors que j'ai pris un coup de barre de fer sur la figure et qu'on m'a plâtré mon nez. Ça veut dire que je tiens à mon nez et qu'on me l'a réparé pour qu'il soit bien droit, mais je chante quand même. Il y a le type Burnell, les Stranglers, qui passait son temps à faire des mouvements de karaté sur scène pour bien montrer que c'était un dur, un tatoué. Et bon, donc il mettait en scène une pseudo-violence. Et puis à côté de ça, il y a leur camarade à tous, la Plastique Bertrand, bien connu, avec ses grosses joues, dont on se dit que bah, lui, c'est pas du genre, il n'est pas dans la violence, avec ses joues bien remplies, c'est autre chose. Mais moi, je ne fais pas tellement de différence. Et puis, ou alors, le clown, la Iggy Pop, avec qui s'exhibe, qui se montre tout nu, qui saute partout, qui est cabossé, qui a mal partout maintenant. Les chanteurs qui se jettent dans le public, ceux qui tombent par terre, qui ratent leur coup, ceux qui restent en l'air. Donc ça, c'est de la violence mimée donnée en spectacle. Donc ça existe, mais c'est pas des objets d'étude, c'est des anecdotes, c'est des trucs qui vont donner lieu à des images. Mais comme objet d'étude dans un programme ANR, ça fait pas. Ça existe, mais on essaye d'avoir autre chose. Donc là, on n'est évidemment pas dans la médecine. Donc la violence en spectacle, ça passe par les mots. Hein. Les mots, c'est pas moins grave que les gestes, c'est simplement différent. Moi, je suis pas du tout d'accord avec l'intervention précédente disant il y a les violences psychiques, il y a les mots, et puis après il y a une escalade où il y aurait des choses qui seraient forcément plus graves. Les mots, ça tue. Les violences psychiques, ça tue. Donc les paroles de morceaux, les slogans, les tags, les interviews, les reportages, les insultes, c'est aussi les mots. Donc tout ça, c'est d'authentique. Ça peut être d'authentique violence tout aussi grave que d'autres. Il y a la violence suggérée. Donc là, dont on a pas mal parlé avant, en fait, dans toutes les images qui étaient projetées. Moi, j'ai aucune image. C'est l'apparence extérieure, donc les trucs qui font peur, les épingles à nourrice, les vêtements, les Doc Martens, les tatouages, les cicatrices. Les cicatrices, c'est important. Comme... Pas seulement les scarifications, les cicatrices qui sont dues à des plaies plus ou moins réparées. Donc, pour étudier la violence dans le punk, ok, on va dire des actes. Mais des actes, ça ne suffit pas, il faut des traces. Quelles traces ? Donc pour analyser les actes, on va avoir des témoignages directs. On m'a tapé dessus. Ok. Et à qui on va le dire ? Qui est-ce qui va recueillir les témoignages ? Donc on va analyser les traces corporelles, on dit les cicatrices, les plaies saignantes, les comptes rendus. Alors les comptes rendus aux urgences, les comptes rendus opératoires. Ça, on va dire, ah ben ça, c'est solide. Sauf que, comme vous pouvez imaginer, quel est le chirurgien qui va marquer que la victime était un punk dans son compte-rendu opératoire ? Donc, s'il ne le marque pas, vous n'avez pas retrouvé, vous pouvez analyser tous les comptes-rendus opératoires que vous voudrez, il n'y aura pas de punk là-dedans. Parce que c'est pas intéressant, c'est pas médicalement intéressant de dire que c'était un punk qui est venu aux urgences. Ou éventuellement, quand il y a un truc extraordinaire, genre bagarre générale entre punk et skinheads, parce que ça marque, et donc éventuellement une trace, une vague trace dans un compte-rendu des urgences, mais pas sûr du tout. Vraiment, des procès-verbaux de police, peut-être, si on a un policier qui s'intéresse au contexte, des bagarres entre punk et skinheads. Alors si jamais c'est les punks contre les punks, s'en fout. Enfin, j'imagine, hein, je suis pas... Je ne rédige pas des comptes rendus de police, j'ai déjà vu des procès-verbaux. Moi, je serais étonné qu'il y ait grand-chose. Les condamnations judiciaires, c'est un peu la même chose. Bah, y aura ce qu'on a fait. Y a quelqu'un qui a donné un coup de batte de baseball à un autre. Mais est-ce qu'il était punk, skinheads ou ni l'un ni l'autre ou quoi que ce soit. Bon. Donc le problème, ça va être l'identification du lien avec le punk. Je ne vois pas comment... Sauf exception, le mot punk pourrait apparaître dans des comptes rendus qui soient médicaux, soignants, encore moins psy, policiers, judiciaires. Donc, il faudrait que le punk soit identifié, déjà identifiable. Donc, s'il n'y a pas de crête, on se dit, est-ce que c'est vraiment un punk ? Bon. Et qu'il soit nommé, qu'il soit identifié, qu'il soit nommé comme tel, et surtout, ce que je vous disais, c'était que le rapporteur ou le descripteur juge qu'il est utile de mentionner ça. Bah, bonjour. Y a les violences visibles et les violences invisibles. Surtout quand on est un peu extérieur à tout ça, c'est quoi ? Bon, là, c'est le pogo, ou bien c'est de la bagarre, c'est du pogo, c'est un jeu agité, c'est les jeunes qui s'amusent, qui ont besoin de se défouler, ou c'est vraiment de la violence ? Bon. Quand il y a de l'alcool, des produits variés, là, comme chez les punks ou chez d'autres, hein, de quoi on se souvient, qu'est-ce qu'on va être capable de dire sur le moment, après ? Bah, y a des trucs, mais comment ça s'est passé, on ne sait pas trop. Et puis, il y a aussi la question de la réception, à partir du moment où quelqu'un est identifié comme ayant pris de l'alcool ou des produits. Bon, on va se dire, ouais, bon, allez, on va s'occuper de réparer ce qui saigne. Et puis, de toute façon, ce qu'il nous raconte, on s'en fout parce que les alcoolos, on n'a pas envie de les écouter. Sauf exception, en tout cas aux urgences, habituellement, ça sera ça. Donc, alors les traces immédiates, les traces anciennes, qui est-ce qui va les montrer ? Alors, on va vouloir les montrer éventuellement quand on veut les exhiber, mais ça va être une petite partie. Donc, ma cicatrice, je suis un homme, un vrai. Donc, qui est-ce qui va les voir ? Donc, on a dit les plaies à suturer aux urgences. Donc, la suture, la cicatrice. Ah ! La preuve que j'ai subi des violences, la preuve que c'était sérieux, c'est que j'ai eu 14 points de suture. Donc on ne sait pas ce que c'était comme plaie, mais j'ai eu 14 points de suture, 19 points. Ah, ça y est, ah ben moi j'en ai eu que 3. Bon. Donc la distinction, le trophée, ça peut être un peu aussi comme le nombre de gardes à vue quand on est un jeune adolescent. ou adultes. Donc il y a le nombre de points de suture, le nombre de gardes à vue, donc les trophées. Mais s'il n'y a que des boss, alors là, comme je vous ai dit tout à l'heure, les boss, on les voit pas. Donc les violences qui vont être plus ou moins dissibles suivant le contexte. Alors quand à la sortie d'un concert ou avant un concert, on s'est fait dépouiller, est-ce qu'on va facilement parler des violences qu'on a subies ? Pas simple. Donc si c'est le service d'ordre ou si c'est des gens qui assistaient au même concert, ça va pas être les mêmes violences. Enfin, le coup pourrait être le même, mais sauf que ça va pas être la même manière d'en parler ou de pas en parler, d'oser en parler. Parce qu'on pense qu'on va être écouté et soutenu par ceux à qui on parle, ou alors parce qu'on pense qu'on va se foutre de nous. Donc si je pense qu'on va se fiche de moi parce que je raconte ce qui m'est arrivé, j'en parle pas. Ou j'en parle pas tout de suite, ou j'en parle jamais. Ou j'en parle pas à n'importe qui. Donc il y a les violences auto-infligées, c'est les violences tout autant. Donc il y a les violences auto-infligées par les produits qu'on prend, hein. Donc à la fois les quantités, les mélanges, le binge drinking, donc ce qu'on boit pour être ivre, ça, on est dans l'ordre de la violence. On peut appeler ça aussi comme on peut appeler ça mise en condition. Donc on se chauffe un peu avant d'aller au concert, avant d'aller au match de foot, avant d'aller faire quelque chose. Donc là, on peut discuter le lien avec la violence. Il y a les overdoses, il y a les suicides, je vous parlais un peu de mort quand même, juste une ligne. Hein. Pour les violences mortelles qui ne sont pas auto-infligées, là aussi, dans les comptes rendus autopsiques, faudrait envisager que figure le mot punk. Je serais étonné que le médecin légiste, de manière habituelle, fasse figurer dans son compte rendu que la victime était un punk. Donc, pour ça, on ne va pas l'identifier, même s'il est mort. Alors, s'il y a des coupures de journaux qui racontent tout ça, on pourra peut-être recouper les informations, mais ce n'est pas du tout évident. Alors, les bonnes et les mauvaises victimes, c'est une vie de recherche en soi. Donc, il y a celles qui vont parler, celles qui ne vont pas parler, la victime qui saigne, la victime qui pleure, la victime qui se plaint. Donc là-dedans, on pourrait, si ça vous intéresse, on pourra en reparler. Les violences... reconnu comme tel, à quel moment les violences du rugby, à quel moment ça devient violent quand l'arbitre voit le geste, et ça l'est pas quand sinon. Le pogo, c'est violent quand on respecte pas les règles, quand il y a des accords entre deux parties. Les violences sexuelles, faut quand même en dire un mot. Donc, d'une manière générale, là je parle pas des punks. Les plaintes, l'examen médical, c'est une fois sur 10. Et là, on est en plein dans les bonnes et mauvaises victimes. Donc le viol, c'est le crime dont la victime est stigmatisée. Donc si en plus la victime est un punk ou une punkette, elle va être d'emblée classée dans les mauvaises victimes habituellement. Le contexte de l'agression, l'aspect extérieur, la prise de produits... Donc là, j'ai repiqué les titres. Le corps exposé, il ou elle l'a bien cherché. Enfin, elle l'a bien cherché, on va dire. Parce qu'il, on n'envisage même pas que le punk masculin soit violé. Le corps vulnérable. Et donc, si c'est une fille, si c'est un garçon, donc là, n'en parlons même pas. Parlons-en, mais en tout cas, envisageons que les traces soient extrêmement difficiles à mettre en évidence. Et donc, on est dans les 5 minutes. En bref, c'est pas facile. La médecine n'est pas très très bien outillée pour étudier le punk. Mais enfin, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais en tout cas qu'il y a du boulot pour envisager que la médecine ou les conséquences des actes médicaux soient contributives. D'abord, le médecin il rencontre rarement les punks, et le punk rencontre rarement... voir le médecin, en tout cas quand il est jeune, parce que les jeunes gens ne vont pas voir le médecin, même quand ils sont malades, donc punk plutôt encore moins, qu'est-ce qu'on irait voir là-dedans. Donc c'est encore plus rare pour les violences, et puis quand la rencontre a lieu, quelle trace du punk dans les comptes rendus, et puis alors qu'on s'occupe avant tout de des traces de blessures, des traces du soin quand on est médecin, mais où est le punk? Voilà.
Alors merci Patrick Chariot pour ce nouvel éclairage sur la violence, mais aussi qui posait la question de comment les punks peuvent apparaître dans d'autres domaines ici et comment ils sont identifiés ou pas. Et je donne la parole au public.
J'ai un souvenir, une fois je me suis fait arrêter à milieu de mon temps, je ne dirais pas pourquoi, j'avais deux, trois gagneuses comme tout le monde. Bref, et des flics m'ont ramené à l'hôtel Dieu pour un examen vulgaire. Et sur le fichier, il y avait spécifié plusieurs annotations. Entre autres, si le client, ou le patient, pardon, pour les flics, c'est un client, pardon. Donc, pour toi, c'est un patient. Mais c'est aussi un client, parce que tu connais tes bébés. Il y a plusieurs spécificités. Donc, il y avait skinhead, punk, reggae man, black, chinois, je ne sais pas quoi. Et ils m'ont fait signer un papier. Donc, ils avaient coché la case punk, alors que je n'avais pas de crête non plus. Et c'était à l'hôtel Dieu. Donc, avec les flics, les menottes, la totale. Et donc, c'était quand même spécifié, les catégories. Donc, je tiens à préciser, tu dis que non.
Oui, je suis très étonné et intéressé. Très bien. Oui, oui.
Voilà, donc bah, ça,
tant mieux.
Non, mais je tiens à
super.
Dire.
Super. Oui, oui.
Et puis, deuxièmement, c'est une petite anecdote. J'avais rencontré un des plus grands punks, je ne sais pas si les gens connaissent, qui s'appelle Gigi Allin, un américain, qui est lui, sa spécialité. Qui connaît Gigi Allin? Très fort. Bravo. Et ce mec-là, ça, je l'ai vu en concert, je l'ai rencontré à New York dans les années 90, il est mort aujourd'hui. Et ce mec-là, il est arrivé quand même à poil sur scène, il se fracassait la tête avec le micro, il chiait par terre, il balançait la merde dans les gens, il prenait les gens en plein concert. Hein, c'était le chanteur d'un groupe, Gigi Allin, The Murder Junkies, je pense. Le concert durait pas plus de 5 minutes. Hein, les flics arrivaient tout de suite parce qu'ils fracassaient les mecs. Les mecs étaient en sang. Donc voilà. Deuxième précision, c'est tout ce que j'allais dire. Merci.
D'accord. Mais ce qu'il y a. Alors c'est évidemment.
Ça, c'était vraiment punk. Hein, donc,
oui, ouais, mais c'est intéressant. Mais dans le cadre d'un programme de recherche, moi, je mets ça un peu dans les anecdotes.
Voilà. C'est ce que j'ai dit. Hein,
les anecdotes,
une petite anecdote, parce que tu parles de Georges Burnell, par exemple, mais il y a pire.
Oui, mais. C'est important les anecdotes, mais c'est-à-dire pour apprécier l'ampleur d'un phénomène, le type qui se fracasse la tête, et que tout le monde va voir, et tous les gens dans le public, on va en parler, mais ça va pas être évident.
Je ne suis pas sûre que ça soit un épiphénomène, je pense qu'il y a beaucoup de groupes qui ont des comportements, c'est au-delà de l'anecdote, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui fonctionnent sur la violence supposée, réelle, tout ce qu'on veut, hein, mais... je suis pas sûre que ça soit que de l'anecdote, justement, en tout cas dans la scène punk.
Mais enfin oui, dans mon esprit, anecdote c'est pas réducteur, ça veut dire que c'est des événements uniques par opposition à une analyse systématique des comportements d'une communauté, si on veut appeler les punks une communauté. Où là, on n'aurait pas des événements individuels, mais des événements, disons, collectifs. Mais c'est tout à fait intéressant. Et par ailleurs, moi, il se trouve que j'ai travaillé à l'Hôtel Dieu. Ça ne devait pas être à l'époque où on mettait des croix sur ça, mais ça m'intéresse beaucoup.
C'était un peu... T'as un peu répondu, parce que, justement, t'as parlé de Daniel Dark, qui vient le nez cassé ou qui se taille les veines sur scène, Sid Vicious qui prend une canette dans le pif et qui joue, qui est la trace de cette piquée. Comment toi tu analyses justement ça? Alors c'est plutôt de l'anecdote a priori. Est-ce que c'est quoi, violence en spectacle? C'est la violence suggérée? Ce serait quoi?
Non, quand on se taille vraiment les avant-bras, elle est pas suggérée. Là, elle est vécue, qu'elle soit, ce qui n'empêche pas qu'elle se donne en spectacle. Donc moi, je l'analyserais différemment de la violence qui serait cachée, qu'elle soit auto-infligée ou pas. Mais c'est comme les suicides sur le lieu de travail. Le suicide sur le lieu de travail ou le suicide ailleurs, il n'a pas le même sens. Donc se tailler les veines sur scène ou se tailler les veines dans sa chambre d'hôtel ou dans son appartement ou je ne sais où, ça n'a pas le même sens. Donc je l'analyserai, c'est tout aussi intéressant, mais je l'analyserai différemment.
Et pour un médecin, on est une victime quand on s'auto-inflige de la violence?
Ben, comme je disais, c'est-à-dire que le médecin qui s'occupe des questions somatiques, il va réparer et il va considérer qu'il faut maintenir la personne en vie. Donc le qualifier de victime ou pas, c'est pas tellement le problème. Quand il y a des grosses plaies, on les suture. Quand on se dit que c'est auto-infligé, on va demander l'avis du psychiatre et on va garder la personne jusqu'au lendemain matin. Donc qualifier la personne de victime, c'est pas la priorité du médecin. Et après, les mots peuvent émerger lors d'un accompagnement psychologique, mais c'est ultérieur.
J'avais peut-être pas tout compris. En fait, je voulais vous poser une question sur votre métier, parce que vous disiez que médecin légiste, c'était seulement 5% de ce que vous faites. Non. Enfin, d'examiner les morts, pardon. Ouais. Excusez-moi. C'est plutôt ça.
Et vous faites quoi
dans les... Oui. Dans quel cas, en fait, on peut être amené à rencontrer un médecin légiste. Voilà.
Quand on a...
D'être mort.
Oui, quand... À part être
mort...
Mais bon,
on en a moins conscience.
Quand on a subi des violences.
D'accord.
Que ce soit des violences...
Ok, on va aux urgences et du coup...
Non, qu'on va dans un service de médecine légale.
D'accord.
Des stagiaires, on en a, oui. Donc, quand on a subi des violences sexuelles, quand on a subi des violences physiques extra-génitales, quand on a subi des violences psychologiques, on peut voir le médecin légiste. Et il se trouve aussi que les médecins légistes examinent les personnes placées en garde à vue. Après, on fait aussi des estimations d'âge.
Oui, non, mais je veux dire, en dehors de la justice ou de la police, ça peut être...
Ah ben non, c'est... Bah, dans médecin légiste, il y a un rapport avec la loi. Donc, soit... C'est à la demande de la police ou de la justice. D'accord. Soit c'est dans des circonstances où il y a une infraction qui a été commise, c'est-à-dire quand on a subi des violences, des choses qui sont susceptibles d'être punies par la loi. Donc là, on peut aller voir le médecin légiste, en tout cas dans mon service. Donc c'est ça, les 95%, c'est ça.
Ok. Non, parce que c'est... voilà, on connaît peu votre métier.
Oui, bien sûr. Mais
et
les
en
médecins
France,
non plus,
c'est un peu différent de... Enfin, ce que je connais un petit peu aux États-Unis, où on a l'impression que c'est plus systématique de faire des autopsies ou des choses comme ça.
Bah, aux États-Unis, il y a plus d'autopsies qu'en France, et les médecins légistes ne s'occupent que des autopsies. La médecine légale du vivant, on va dire, ça existe en Grande-Bretagne ou en France de manière à peu près similaire, mais aux États-Unis, par exemple, ça n'existe pas.
D'accord. Et quand il y a des archives, éventuelles traces, rapports, etc., c'est dans les archives hospitalières ou dans celles de la police ?
Ça dépend. Pour les archives de médecine légale. Alors si c'est, ça peut être les deux. Si c'est les comptes rendus d'autopsie, là c'est officiellement la justice. Il y a souvent en général une copie dans les services hospitaliers. Et après, quand c'est des examens de victimes, quand c'est à la demande de la justice, ce sont des pièces qui font partie des pièces de procédure. Donc c'est dans les dossiers des tribunaux, mais souvent il y a une copie dans les services de médecine légale. Et là où il n'y a que dans les pièces qui ne sont que dans les services de médecine légale, c'est pour les personnes qui sont examinées en dehors d'une plainte. Dans ce cas-là, il n'y a pas de transmission à la justice. D'accord. Voilà. Donc les deux existent.
Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer à la prochaine présentation vu que le temps tourne. Donc, encore merci.